This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte j'ai ouvert en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'histoire ou quand le jazz retrouve des repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Cette année-là, en 1974, on trouve deux exemples significatifs du mensonge d'État. Alors on justifie beaucoup de décisions gouvernementales par le secret d'État qui garantirait le bon exercice du gouvernement ou de la diplomatie. Peut-être, et pourquoi pas. Mais nous parle-t-on du mensonge d'État qui demeure le point commun de tous les régimes, qu'ils se disent démocratiques ou qu'ils soient totalitaires ? Cette année-là, en 1974, le président français Georges Pompidou est mourant. Les communiqués de presse parlent d'une mauvaise grippe. À la télévision, chaque Français voit le visage de son président gonflé, bouffi, par les traitements intensifs qu'il subit. Cet homme n'est plus en état d'assumer sa tâche et pourtant, au prix de souffrances extrêmes, on l'agite comme une marionnette. Et puis la nouvelle va éteindre les écrans de télévision. Le président est mort. Le fonctionnement institutionnel est sauf, donc tout va bien. Pourtant, combien de semaines, combien de mois l'exercice du pouvoir fut-il vacant ? Nul n'en sait rien. Tout cela au mépris de la nécessaire transparence démocratique. Et c'est ainsi que le mensonge concernant la maladie de François Mitterrand n'était pas le premier. Cette même année-là, 1974, voit la conclusion d'une enquête journalistique aux États-Unis qui va se solder par la démission de Richard Nixon, président en exercice, au cours de son second mandat. Il s'agit de l'affaire dite du Watergate.
Comité de réélection du président.
Est-ce que je pourrais parler à M. Clark McGregor ?
Ne quittez pas, je vous passe.
Merci. Monsieur McGregor ?
Oui.
Ici Bob Woodward du Washington Post. Allô ?
Oui.
Ah, ici Bob Woodward du Washington Post.
Mm.
Je viens de parler à Monsieur Kenneth Dahlberg, qui dit être le président des finances
oui,
du Midwest.
Je connais Ken
Dahlberg. Je n'arrive pas à trouver d'explication au fait qu'un chèque de 25 000 dollars établi au nom de Monsieur Dahlberg, qu'il a, semble-t-il, envoyé au comité de réélection du président, ait fini sur le compte en banque d'un cambrioleur du Watergate.
Je ne sais pas.
Vous êtes à la tête du comité, monsieur.
Écoutez, j'ai pris le train en marche. John Mitchell, l'ex-directeur du comité, le saura peut-être.
Quelle peut être l'explication vraisemblable?
Je n'en sais rien. Vous insinuez que je devrais la connaître. Si jamais vous publiez ça, je mets fin à nos rapports.
Monsieur, nous n'avons pas de rapport.
Les questions soulevées par la campagne ont trait à la paix et à la prospérité. On se moque bien d'un chèque de soutien.
Bob?
Écoutez, personne ne dit quoi que ce soit.
Avant que je ne prenne les
monsieur
rênes.
Dahlberg,
je dirige une campagne pour la réélection du président. Nous avons réuni 60 millions de dollars et vous vous ergotez sur un chèque de 25 000 dollars.
Monsieur McGregor, excusez-moi, voulez-vous ne pas quitter un petit instant?
Oui, bien sûr.
Merci. Oui.
Allô?
Monsieur Dahlberg?
Oui.
Voulez-vous ne pas quitter un petit instant, monsieur?
Monsieur, oui.
Merci. Monsieur McGregor?
Oui.
Est-ce que je peux vous rappeler, monsieur?
Oui,
je vous...
bien sûr.
Merci. Monsieur Dahlberg?
Extrait des Hommes du Président, film réalisé par Alexandre Pakula, sur précisément cette affaire du Watergate. Alors de quoi s'agit-il? Nous sommes en 1974, mais l'affaire a commencé en juin 1972. Les journalistes Robert Woodward, que l'on entend ici dans cet extrait, et Carl Bernstein du quotidien Washington Post révèlent à l'opinion une effarante affaire d'espionnage politique qui va rapidement devenir le scandale du Watergate. Vice-président républicain du temps de Eisenhower, Richard Nixon, battu par Kennedy en 1960, est élu président des États-Unis en 1968 et réélu en 1972. Il est alors accusé d'avoir menti au sujet de micros posés au siège du Parti démocrate dans l'immeuble du Watergate. Objet d'une procédure d'impeachment, il est contraint à démissionner malgré ses succès en politique étrangère. Le scandale du Watergate pose le problème de la toute-puissance du président des États-Unis. Cet homme a-t-il tous les droits? dont celui de faire espionner ses adversaires. Il reste un mystère à résoudre concernant cette affaire et il est toutefois probable que toute la lumière ne sera jamais faite sur un scandale qui a ébranlé les États-Unis.
Gorge Profonde a dit que la vie de certains était en danger.
Oui.
Qu'est-ce qu'il a dit d'autre ?
Que tout le monde est mouillé dans l'affaire.
Vous avez vu les derniers résultats du sondage d'opinion ? La moitié du pays n'a jamais entendu le mot de Watergate. On s'en fout comme d'une guigne. Vous devez être complètement crevé. Bien sûr, c'est normal. Entrez chez vous. Prenez une douche ou un bain chaud, puis reposez-vous 20 minutes. Une fois d'attaque, rappliquez dardard. On nous fiche des bâtons dans les roues et c'est par votre faute. Il est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en jeu, excepté le premier amendement de la Constitution, les droits de l'homme, la liberté de la presse et peut-être même l'avenir des États-Unis. Tout ça n'est pas très important. Mais si jamais vous refoutez le bordel, je vous préviens, ça bardera.
C'est la discussion que met en scène le film « Les hommes du président » entre les deux journalistes et le rédacteur en chef du Washington Post. Alors, Gorge Profonde, dont il est question dans ce dialogue, n'était autre que l'informateur principal des deux journalistes, Bob Woodward et Carl Bernstein, dont on n'a pas su au moment de l'affaire de qui il s'agissait. Plusieurs noms ont été évoqués, mais quelques années plus tard, l'informateur en question n'a pas pu résister à l'envie de dire qui il était. En fait, il s'agissait du directeur adjoint du FBI, qui avait donc craché le morceau et livré toute l'affaire. Alors, il aura fallu l'obstination des deux jeunes reporters du Washington Post pour mettre en lumière un écheveau de malhonnêteté et aboutir à la démission du président Nixon le 9 août 1974. Le scandale du Watergate, en révélant les comportements du pouvoir à Washington, ébranlera la confiance des Américains dans leur gouvernement et entraînera la mise en accusation de plus de 30 collaborateurs de la Maison-Blanche. Certains éléments du dossier demeurent encore mystérieux.
C'est ici que tout a commencé. Dans les locaux abritant l'état-major du Parti démocrate, 4 mois avant l'élection présidentielle de novembre 72. Comme dans un film policier de série B, une nuit de juin dernier, la police surprend 7 hommes. Apparemment, 7 espions, empêtrés dans les fils du téléphone qui viennent de brancher sur les tables d'écoute, quelque peu effarés au milieu des dossiers qu'ils viennent de fouiller. Les démocrates ont finalement décidé de déménager. Mais Watergate, l'immeuble de luxe où ils étaient locataires, est devenu une sorte de monument historique. C'est que depuis, cette affaire d'espionnage a pris progressivement les proportions d'un énorme scandale politique. À mesure qu'il devenait plus évident, malgré les démentis de la Maison-Blanche, que l'opération d'espionnage avait été décidée par l'entourage même de Richard Nixon. Cela dans le but de connaître les détails de la stratégie électorale de l'adversaire du président, le sénateur McGovern. Les noms de 2 anciens ministres sont prononcés. Au Congrès, mené par un Sénat d'autant plus sévère qu'il est à majorité démocrate, l'enquête parlementaire semble sur le point de faire la lumière, tandis que les débats du tribunal qui juge les 7 révèlent des points troublants. Alors cette semaine, coup de théâtre. Devant la presse réunie à la Maison-Blanche, Nixon déclare que les responsables doivent être châtiés. De protecteur, le président s'est fait procureur. Mais à en croire les sondages, la majorité des Américains semble convaincue que le président ne pouvait pas ne pas être au courant des préparatifs de cette affaire d'espionnage par ses conseillers. Quant aux démocrates, ils ne sont pas loin de penser pour leur part que Watergate n'est que la première étape vers la victoire au présidentiel de 1976.
Au cours des premiers mois de l'année 1974, Richard Nixon, déjà fortement mis en accusation, va résister. Il va tenter d'éviter de devoir se retirer. La procédure d'impeachment est déjà engagée et c'est la Cour suprême qui va mettre le coup de grâce. En effet, dans une décision, on a appris que des enregistrements avaient été faits à la Maison-Blanche et la Cour suprême va demander à ce que ces enregistrements soient rendus publics, en tout cas qu'ils soient communiqués à la justice. Et là, non seulement on va se rendre compte qu'il y a un trou de 18 minutes où apparemment on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en plus, on va découvrir que le président des États-Unis est un drôle d'individu.
Dans le bureau ovale.
Dans le bureau ovale de Nixon, du président de la République, il y a un système de magnétophone, un système d'enregistrement des conversations, qui fonctionne dès que le président rentre dans le bureau, il branche le système, et dès qu'il quitte le bureau à la fin de la journée, il coupe le système, et toutes ces conversations ont été enregistrées. Alors, ce dispositif, nous sommes donc, on s'en aperçoit en 1973, l'affaire du Watergate, donc c'est très compliqué, je vais pas rentrer là-dedans, commence en 1972, et à l'occasion de cette affaire, donc dans un des témoignages devant la commission du Sénat et du Congrès d'une façon plus générale qui enquête sur le Watergate, il y a un personnage relativement secondaire, d'ailleurs ça se passe au mois de juillet 1973, qui incidemment dit, écoutez, si vous voulez vérifier ça, il n'y a qu'à aller regarder et écouter les bandes du président Nixon. Alors tout le monde est assez surpris, comment il enregistre ses conversations. Effectivement, la Maison-Blanche dit, nous enregistrons les conversations du président. Alors on demande au président pourquoi. D'abord Nixon dit, c'est pas moi qui ai mis le système en place, c'est Kennedy qui a mis le système en place. Et l'idée de Kennedy, c'est plutôt que de d'avoir quelqu'un qui prenne des notes pendant les réunions, il est plus simple qu'on enregistre et puis après que quelqu'un retranscrive la conversation. Simplement, Kennedy lui prévenait les gens quand il rentrait dans son bureau en disant, on va enregistrer la conversation, c'est comme si quelqu'un prenait des notes. Et Nixon, de façon assez naïve, dit, mais écoutez, c'est pas scandaleux en soi, dans toutes les réunions il y a des gens qui prennent des notes, là il y a des gens qui enregistrent, c'est exactement la même chose, moi je fais ça pour l'histoire, pour que après, les gens qui écriront l'histoire des États-Unis dans une période qui est un peu troublée aient du matériel. Alors la justice lui dit, bah écoutez, on veut savoir si vous étiez au courant du cambriolage organisé par les services du Parti Républicain. On va écouter ce que vous disiez dans le bureau et puis comme ça, on saura si vous étiez au courant ou pas. Donc il va résister, il va procéder. Et puis le 30 avril 1974, la Cour suprême dit, donnez les bandes. Et son entourage trouve un Nixon plutôt rassuré. Pourquoi ? Parce que Nixon dit, ils vont enfin voir qui je suis. Ils vont s'apercevoir que finalement, je suis assez à la hauteur de la situation. Quand on me pose des questions, je réponds. Effectivement, quand on écoute les bandes, sur le fond, ce qui ressort, c'est que c'est un personnage qui s'intéresse au dossier, qui est au courant, qui pose les bonnes questions. Bon, le problème, c'est que sur la forme, on découvre un personnage qui parle un anglais approximatif, qui humilie ses collaborateurs en public.
Langage ordurier.
Langage ordurier, qui tiennent des propos avec un certain nombre de gens assez grivois sur un certain nombre de femmes membres du Congrès, qui, certains soirs, vers 8h, 8h30, on entend sonner des bruits de glaçons, des bruits de bouteilles, c'est-à-dire 10h, 10h30, la voix est pâteuse, on découvre que le gars est ivre quasiment un jour sur 5 ou 6, et donc l'image qui
c'est public, ça, hein, et c'est public.
Et l'image qui renvoie est une image désastreuse. Et Nixon est complètement sidéré de ça. Il n'arrête pas de dire à ses communicants, mais expliquez-leur que finalement, ce qui ressort, c'est que je suis plutôt un homme compétent. Et les gars lui disent, non, non, c'est perdu, vous êtes foutu. Et effectivement, il va être obligé de démissionner au mois d'août 1974.
Voilà, c'est Jean-Marc Daniel sur BFM qui racontait l'histoire des bandes et qui avait donc, dont le contenu, même si elle n'était pas tout à fait... dramatique pour le président. En fait, c'est l'image même du président qui se trouvait atteinte après, sans qu'il y ait un lien proprement dit avec l'affaire du Watergate, mais son image était complètement dégradée et il va démissionner le 8 août 1974. Voici comment il commence le texte de sa démission à ce moment-là. Dans la traduction, voici ce qu'il dit. « D'après les discussions que j'ai eues avec des membres du Congrès et d'autres leaders, j'ai conclu qu'à cause de l'affaire du Watergate, je n'aurai sans doute plus l'appui du Congrès, appui que je considère comme indispensable pour prendre des décisions très difficiles et pour m'aider à accomplir les devoirs de ma charge dans le sens des intérêts de la nation. Quand je commence quelque chose, je le termine. Abandonner mes fonctions avant que mon mandat ne soit terminé est contraire à tous mes instincts. Mais comme président, je dois faire passer en premier les intérêts des États-Unis. » On peut penser qu'il aurait dû le faire avant, plutôt que de mentir aussi longtemps pour en être réduit à cette extrémité de la démission. Mais en même temps, on peut se trouver rassurant que grâce à deux journalistes, deux jeunes journalistes, eh bien, même un personnage aussi puissant que le président des États-Unis ait dû finir par démissionner à cause de sa forfaiture. Voilà, cette même année, en 1974, eh bien, côté musique, un musicien exceptionnel, extraordinaire, un organiste, enregistre un album. Ça s'appelle « Paid in Full » et ce musicien s'appelle Jimmy Smith. « Can't Get Enough, un thème composé par Jimmy Smith, enregistré donc en 1974 pour l'album Paid in Full. Alors Jimmy Smith, James Oscar Smith, est né en 1928, il est décédé en 2005 brutalement d'un problème cardiovasculaire. C'est le champion de l'orgue Hammond B3 avec la sonorisation de Leslie. C'est l'orgue qui a fait qui servait le plus dans la musique de jazz. C'est un musicien qui a été formé par le gospel et le blues. Il a eu un énorme succès, et son succès a commencé dans les années 50. Il a enregistré pour la marque Blue Note et puis pour la marque Verve. C'est un musicien qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, qui a tourné dans le monde entier. Et d'ailleurs, il a enregistré cette année-là, en 1974, le concert qu'il a donné au Japon, à Tokyo, dans le cadre du festival Toshiba, puisque au Japon, sont les marques qui organisent et qui sponsorisent les festivals. Il enregistre avec une grande formation, c'est le big band de la marque Blue Note, avec donc la fine fleur de ce label, et des arrangements d'Oliver Nelson. Je vous propose d'écouter un thème très connu, Moanin'. Moaning, interprété par Jimmy Smith, une composition du pianiste Bobby Timmons, qui d'ailleurs devait décéder en 1974. J'aime l'idée de lui dédier ce morceau, de le dédier à sa mémoire. Alors, il y a trois autres disparitions cette année-là. En 1974, c'est celle de Duke Ellington, qui meurt après des concerts d'ailleurs, puisqu'il a tourné au cours de l'année 1974 et puis il est décédé dans le cours de l'année. Et puis deux de ses complices sont également décédés, Harry Carney, le saxophone baryton, et le saxophone ténor Paul Gonsalves. Le big band de Duke Ellington ne sera plus jamais par la suite, même si il va continuer avec le fils de Ellington, il ne sera plus jamais comme avant. Mais nous ne restons pas sur cette idée de décès trop triste, car l'important, c'est que leur musique, elle est éternelle. Une autre année, une autre histoire, mais c'est précisément une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense j'ai ouvert en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.